Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à vous, tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1033 d'Invino depuis la création de l'émission. Nous étions en 2004, et oui, alors ça y est, retour des vacances après les best-of qui, j'espère, vous ont plu pendant tous ces deux mois, quasiment un mois et demi, on va dire. Et puis, à mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbrac, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bon, les vacances, vous avez fait quoi alors ?
Oh, je pourrais même pas vous raconter tellement c'était bien.
C'est vrai ?
Ouais, ça serait trop long à l'antenne.
Bon, et vous, Philippe ?
J'ai fait le sud-est de la France qui m'est cher, donc entre Châteauneuf-du-Pape, les Dentelles de Montmirail, le Luberon, les Hautes-Alpes et les Binômes de Provence. Et oui, j'ai passé du bon temps.
Bon, ça va, allez, on revient tous en pleine forme. Vous savez, on est délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Et je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Avignon, tiens, par exemple, sur 95.2. On peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure William Monin, propriétaire du château Saint-Pons. Nous serons dans le sud de la vallée du Rhône. Vino Quiz aussi, pour gagner un coffret 3 bouteilles de la marque Bandidoire et un coffret Divine en jouant sur invinoradio.tv. Et puis, pour commencer cette émission, on accueille non pas un, mais deux invités, Charles Debohan et puis Thibaut Petitpas, fondateur de Perdri. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors dites-nous, là, vous êtes fils d'agriculteur, donc ça, c'est top. Vous êtes passionné de terroir, ça, c'est bon pour le marketing. Et vous avez créé un truc génial. Vous avez fait quoi avant de créer votre boîte ? D'abord, qui est Charles, qui est Thibaut ? Charles ?
Du coup, moi, je suis Charles, oui.
Très, très bien, Charles. Qu'est-ce que vous avez fait avant de créer votre boîte ? Vous avez quel âge, Charles ?
On a 24 ans avec Thibaut.
24 ans. Ah, vous deux, vous avez 24 ans. Vous vous en souvenez, quoi.
Exactement. Et donc, avant, on était en études.
Vous avez fait quoi comme école ?
On était à l'IDREA, c'est une école orientée dans tout ce qui est agro-industrie.
D'accord.
Et donc, voilà, qui forme à tous les métiers de l'agroalimentaire. Et puis, on s'est spécialisé chacun de notre côté. Après, Thibaut est parti à AgroParisTech dans les innovations dans l'agro-industrie.
D'accord.
Et moi, je suis parti à Bordeaux, à Kedge, dans une formation en vin et spiritueux.
D'accord. Ouais. Alors là, votre constat, c'est quoi ? Vous êtes tous les deux au BDE de l'école, vous faites la fiesta, il y a plein de petites jolies filles autour. Il y en a qui se disent, mince, j'aime pas la bière, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le truc ?
Exactement. Et en fait, on se rendait compte que plus on avançait, plus on organisait d'événements, et plus on avait de gens qui venaient nous demander si on n'avait pas autre chose que de la bière, l'amertume pouvant déranger. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à un nouvel apéritif qui soit frais, fruité, pétillant.
Vous aimez la bière, Hélène, ou pas ?
Alors, j'aime la bière, mais surtout, j'allais vous demander, les gars, vous n'avez jamais trouvé une bouteille de cidre à leur filer ? Enfin, je veux dire, parce que
la Normande s'exprime, là. La Normande s'exprime.
Je veux dire, j'aime pas la bière, admettons. Enfin, moi, si, mais je veux dire, admettons, je suis au BDE, je fais la fête, j'aime pas la bière. Le cidre, non ?
Alors, c'est vrai que le cidre, souvent on le propose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Personne en boit.
C'est une image au corps qui a du mal à se démocratiser pour l'apéritif, même si aujourd'hui, il y a des marques qui arrivent à le moderniser, c'est vrai. Mais du coup, nous, voilà, aujourd'hui, on voit que les gens le font très bien. Enfin, on voulait faire quelque chose vraiment de différent. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, faut qu'on aille à créer quelque chose.
Alors, on va y arriver. Philippe, pour moi, un petit commentaire sur le cidre, peut-être.
Oui, sur le cidre. On l'a organisé avec l'Union de la Sommelier française. La finale du meilleur jeune sommelier de France, c'était au mois de juin, donc il n'y a pas très longtemps. C'était en Normandie. On a goûté, mais vraiment, une sélection de cidres juste extraordinaire en fonction des zones géologiques, en fonction des influences climatologiques,
en fonction des variétés de pommes
utilisées, en fonction des techniques. Et aujourd'hui, il y a une créativité, un peu comme dans le monde de la brasserie, dans le cidre. Des vieillissements dans des fûts de Calvados, dans des fûts de Sauternes, dans des barils,
dans des enfants, de gastronomie, etc.
Et des sites de gastronomie millésimés. On a fait avec notre confrère de France Inter, Dominique Hutin, par exemple, une verticale de cidre jusqu'à 1997.
C'est pas vrai.
C'est quand même impensable, parce que pour le cidre, c'est une boisson, je veux dire, qui s'ouvre.
Et ça donne quoi en 97 ?
Eh bien, c'est extrêmement intéressant. C'est beaucoup plus complexe. Ça se confise un peu avec le temps. Mais finalement, ça garde quand même l'identité, bien entendu, des variétés de pommes, voire de poires utilisées, parce qu'il y a des cidres aussi, des poirées. C'est super intéressant.
Allez, Charles.
Et deviennent vraiment gastronomiques avec des tanins, de la matière et des possibilités d'accord sur des volailles, sur des fromages, sur des viandes blanches. Assez extraordinaire.
Donc ça mérite d'être souligné.
Absolument.
Parce que le cidre, que l'apéro avec une crêpe,
bravo aux producteurs de cidre.
Et bravo aux producteurs
aujourd'hui, vraiment de très bons progrès.
Alors, revenons à la Mirabelle, parce que c'est quand même un sujet important. Racontez-nous, Charles. Donc l'idée, on l'a compris, il y a des gens qui n'aiment pas la bière, il n'y a rien. Donc vous arrivez. Vous êtes de Lorraine, vous, hein ? Vous êtes
Alors, pas exactement de Lorraine, on est de la Marne, on est de Reims, mais bon...
On n'est pas très loin.
On est dans le Grand Est.
Ouais.
Exactement. On est dans le Grand Est, et puis voilà, cette envie de vouloir créer quelque chose de différent, qui ne soit pas quelque chose d'existant à travers un nouveau process. Et la Mirabelle n'étant pas loin, et par rapport à tous les essais qu'on a fait, notre famille, nos familles respectives ont goûté un grand nombre de choses qui n'étaient pas forcément toujours très bons. Et donc après, on a réussi à trouver vraiment le format qui nous intéressait, et notamment sur la Mirabelle. Alors après, on a pour objectif de décliner sur d'autres fruits. Mais voilà, vraiment créer quelque chose, et tout en valorisant une production issue de filières locales.
D'accord.
Filières françaises. Donc là, les Mirabelles qu'on utilise, c'est la Mirabelle IGP de Lorraine. Et à chaque fois, une fois qu'on déclinera sur d'autres fruits, ce sera l'objectif, ce sera de décliner à
décliner,
travers...
Décliner, quoi. Voilà. Thibaut, dites-nous alors, donc là, d'abord Perdri, la marque, comment ça s'écrit Perdri? Ça n'a rien à voir avec l'oiseau, hein?
Alors, Perdri, il y a quand même un petit clin d'œil à l'oiseau, donc c'est P-A-I-R-D-R-Y, pour la petite histoire, c'est la paire parce qu'on est deux amis d'enfance, ouais. Dry pour le côté sec, sans sucre ajouté, et pour finir, Perdri, le clin d'œil à l'oiseau emblématique des plaines, vu qu'on vient de la campagne.
Bon, ça fait 6 degrés ça, hein?
C'est 6 degrés, exactement.
Bon, alors qu'est-ce que ça comme type de goût? Enfin, c'est-à-dire que, d'abord, le contenu, c'est qu'on dirait de la bière quand on passe devant ou pas?
Alors, au niveau de la couleur, il y a cet aspect un peu entre le cidre et la bière, mais le procédé va vraiment trancher. Aujourd'hui, nous, on travaille sur de la Mirabelle 100% IGP de Lorraine, qu'on va presser à froid, qu'on va faire fermenter pour arriver à 6 degrés. Et la particularité, c'est qu'on va la faire infuser avec une petite fleur, qui est le secret de la recette. Et qui va
comment
vraiment,
c'est qui cette fleur, alors, dites-nous?
Comment
s'appelle cette fleur?
Ah bah c'est notre petit secret.
Et si justement, c'est pour ça qu'il faut le dire.
Mais même nos parents ne sont pas au courant aujourd'hui. C'est vraiment notre petit secret de fabrication.
C'est le chanvre planqué au fond du jardin.
Oui, c'est le truc là. C'est, à l'époque,
c'est ça. Oui, maman, c'est des papyrus. Oui,
bien
oui.
Sûr. Puis arrêtez de fumer le papyrus. Alors, donc ça, vous l'avez lancé quand?
Du coup, on a lancé ça courant décembre.
Décembre 2020, oui. Ouais, c'est tout récent. Hein.
Tout récent, exactement.
Génial.
Et donc avec un début qui est très encourageant. Donc là, on a vendu...
Et vous produisez en Lorraine ou
Alors aujourd'hui, ouais, nous, on est une petite entreprise. Oui. Pour investir dans tout ce qui est cuverie, ligne de mise en bouteille, etc., on a des vignerons qui sont...
Et vous cherchez des sous ou pas?
On cherche toujours des sous.
Ah ben hein, voilà, il faut le dire, ça. Donc, si quelqu'un va investir, un auditeur d'une ville au Sud Radio, mettre chez vous, je ne sais pas, 2-3 milliards, c'est jouable, quoi. Hein.
Complètement.
Avec grand plaisir. Vous avez un site internet, peut-être?
On a un site internet, on est très présent sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel.
Ouais. Et donc, vous nous redonnez votre site?
Alors, c'est Perdri, tout simplement. Vous tapez
Perdri. Comment ça s'écrit, Perdri, déjà, là?
P-A-I-R-D-R-Y.
Alors, vous avez déjà vendu 15 000 bouteilles en 4 mois pour une entreprise qui se lance. C'est déjà pas mal. Et où est-ce qu'on les trouve, vos perdrix? 40 points de vente, lesquels? Où ça?
Alors, on est dans des cavistes, épiceries fines et magasins de producteurs, ce qui permet de mettre vraiment en avant le produit. Et on est,
surtout dans le Grand Est ou
surtout, alors, on est dans le Grand Est et dans l'Île-de-France. Et là, on commence à être un peu partout en France. Et on se lance également en restauration et en bar pour faire découvrir à tout le monde la perdrix.
Parce que l'idéal, c'est de le consommer quoi? À l'apéro On le boit quand, votre perdrix?
Ben vraiment, alors nous c'est vrai qu'on a tendance, on est très amateurs d'apéritifs, donc on le boit bien frais pour l'apéritif, mais il y a d'autres personnes qui vont l'accompagner en dessert, c'est possible aussi.
Ah oui.
Donc travailler de différentes façons, c'est possible.
Philippe Forbrock, je ne sais pas si vous êtes dégusté la perdrix pour l'instant?
Pas encore, mais ça me donne envie de découvrir.
Alors moi j'ai deux questions, c'est combien ça coûte?
Oui, bonne question.
Alors en moyenne, le prix de la bouteille aujourd'hui chez un caviste, elle est à 3,90€. Et puis voilà donc.
C'est une bouteille de combien?
C'est une bouteille de 33 centilitres.
Ah oui, c'est même pas un litre en plus.
Non. Alors nous, encore une fois, on se lance, donc on savait pas trop où on allait parce que encore une fois, on n'est pas du cidre, on n'est pas une bière, on n'est pas un vin, on est vraiment quelque chose de différent par rapport à ce process.
Et comment vous définissez d'ailleurs? Vous avez quoi? Un breuvage?
Eh ben oui, on appelle ça la perdrix aujourd'hui, comme vous pouvez appeler le scotch du ruban adhésif ou un frigo, un réfrigérateur.
Ouais, c'est ça,
voilà,
c'est une boisson pétillante alcoolisée à 6 degrés. Ouais, et ma deuxième question, c'était qui dénoyote les Mirabelles? C'est une vraie question parce que c'est pas toi, mais c'est tout petit une Mirabelle, c'est hyper galère à dénoyoter.
Et après, on pose la question sur les écrevisses, parce que c'est pareil.
C'est ça.
Non, mais les Mirabelles, oui, on travaille du coup avec une coopérative qui a des outils pour dénoyoter les Mirabelles. Ouais. Donc, c'est des sortes de grands couteaux qui rentrent dans la Mirabelle et qui dénoyotent naturellement la Mirabelle mécaniquement.
Bon. Voilà. D'accord. Donc, c'est à titre 6 degrés, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc, on peut en prendre avec modération, mais on peut en prendre quand même. Hein.
Ouais. Exactement, à consommer toujours avec modération.
Et ça se mélange avec des trucs? On peut faire des cocktails ou pas?
C'est possible de le travailler en cocktail, justement, on commence à le développer. La Mirabelle, c'est quelque chose de très fruité, qui a vraiment un très bon nez, donc on essaye de le développer, notamment avec du gin, et on voit ce que ça donne.
Et alors, c'est vous deux, là, avec vos petits bras, qui voulez aller démarcher, là, les cavistes, les CHR, les...
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous les deux sur le projet.
Ah, c'est génial.
On est super contents. Et puis, par rapport à notre proximité, du fait qu'on soit amis d'enfance, ça aide aussi.
Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas encore engueulés, quoi? Ouais, ça peut vous verrez quand vous serez riche, ça arrivera un jour. C'est...
Ça peut arriver, mais ça rentre toujours rapidement dans l'autre parce qu'on se dit les
et
choses.
Et d'ailleurs, en parlant de riche, la marge sur votre Birabel, là, parce que c'est joli l'histoire, hein, mais c'est combien? Vous faites quoi pour un 3,90? Vous faites quoi? 95% de marge, 96%?
Non, c'est...
ce serait beau.
Ce serait très très beau, malheureusement. Non,
c'est une belle marge quand même, non?
Non, non, même vraiment pas. On est sur des marges minimum. Il faut savoir que la Mirabel coûte cher parce que c'est un produit en plus qu'on utilise.
Passez-moi votre mouchoir, Hélène, parce que là, c'est... on va pleurer. Là, c'est...
Non, non, mais c'est vrai. Et puis nous, on vous l'a dit, on est fils agriculteurs, on a pour ambition aussi de reprendre nos exploitations plus tard. Et on a à cœur de payer justement les producteurs. Et c'est pour ça qu'aussi...
Le bon prix, c'est important.
Oui, le bon prix, c'est important.
La filière.
Hélène,
alors j'ai lu quelque part que Thibaut, vous cherchiez un travail à temps partiel pour continuer à développer l'activité. On en est toujours là? Parce que alors... si c'est ça, on peut lancer un appel à l'antenne.
Absolument.
C'est très gentil, mais ça a déjà été trouvé. J'aide mon papa sur l'entreprise familiale. Donc,
elle est basée où d'ailleurs, l'entreprise familiale?
Alors la mienne est basée en Seine-et-Marne, à côté de Provins.
À Provins, c'est joli ça. Il y a Christian Jacob qui est dans le coin encore.
Exactement.
Est-ce que vous l'avez fait goûter à Christian le... Ah, il y a des stars qui ont goûté votre produit, hein?
Oui, ouais, tout à fait. Non, on a annoncé,
Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Il y a Dujardin, ça?
Il y a Jean Dujardin, il y a Michel Sarran.
Ils n'ont pas été malades, hein, ça va, ça s'est même passé.
Non, non, non.
Bon, ils ont même dit merci, apparemment.
Ils ont même dit merci, qu'ils avaient beaucoup aimé. Ouais. Ouais, non, Emmanuel Macron, le ministre de l'Agriculture aussi.
C'est qui lui, Macron?
Je crois que c'est le président de la République française, mais je ne suis pas sûr.
Mais comment vous avez fait pour faire déguster votre produit, là, votre super produit, au président?
Bah, c'est vrai que, en fait, c'était encore une fois ce que vous disiez, on est très présent sur les réseaux sociaux et puis on a à cœur de créer une vraie communauté autour du produit qui soit engagée. Et donc, du coup, on a lancé cette petite opération un peu folle au mois de février où on a demandé à notre communauté de nous sélectionner une trentaine de célébrités à qui on allait essayer de communiquer la perdrix et transmettre un petit colis avec une bouteille et puis un peu de documentation. Et puis, on a eu pas mal de retours, donc on était super contents avec des très bons retours d'ailleurs. Avec des célébrités qui sont clients maintenant du produit.
Génial.
Donc ça fait.
Parce qu'on peut commander en direct aussi?
Oui, complètement. Ah. Si vous allez sur notre site internet, d'une, vous pouvez voir tous nos points de vente sur une jolie carte de la France. Et ensuite, vous pouvez commander, bien sûr, en direct, livraison partout en France.
Bon, super. Pour terminer, température de service, votre perdrix, il faut la plumer à combien dans degrés?
Nous avons autour de 6 degrés. Ça se boit bien
6
frappé.
6 degrés, quoi. Mmh. Et ça, vous allez l'exporter, évidemment, quoi.
Mais si on peut faire rayonner la Mirabel française au-delà de nos frontières, avec grand plaisir.
C'est un beau projet. Merci beaucoup, Charles. Merci également beaucoup, Thibault. On vous soutient. En tout cas, le micro d'Invino sur Radio est à votre disposition pour suivre votre évolution. Merci à Hélène également et à Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant au bar du caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Ville Quiz pour gagner des cadeaux magnifiques, notamment des coffrets Bandit Loire et Divine.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. C'est la première après les grandes vacances estivales. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino, Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. Philippe Forbrac, c'est le moment du Vino Quiz.
Oui,
c'est la reprise du Vino Quiz.
Tant attendu dans tout cet été. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le livre Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Alors, concentrez-vous sur la question de ce week-end. Quel est l'ingrédient principal de perdrix?
Voilà.
La nouvelle boisson créée par Charles de Bohan et Thibaut Petitpas. Réponse A, le chocolat. Mm-hmm. Réponse B, le céleri.
Très bien.
Réponse C, la Mirabelle.
Vous aimez le céleri, vous, Hélène, non?
Oui, et le chocolat, mais je préfère la Mirabelle. Ah, je n'ai donné aucun indice.
Ah, oui. Et pour répondre et gagner, la même chose que Hélène Pio. Elle gagne et 3 bouteilles de la marque Bandit Loire.
Et une photo dédicacée d'Hélène Pio.
Exactement.
Toute bronzée, là, qui lui rentre du Sud et de Normandie.
Debout sur le char du 14 juillet, si vous avez suivi les émissions cet été.
C'était il y a 2 mois.
Si vous voulez savoir le reste, donc il y a aussi un coffret Divine. Oui. Le livre Œnotourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi des bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Invino Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, William Monin, propriétaire du château Saint-Pons. Bonjour, William.
Bonjour.
Alors, vous êtes arrivé récemment dans le Ventoux, hein, c'était en 2018, et vous avez décidé de tout changer dans votre vie.
Oui, tout à fait.
Vous avez changé de femme ou pas?
Non, j'ai emmené avec moi.
Et elle est heureuse?
Ah, bah, je pense, oui.
Elle est très heureuse, quoi.
Elle a l'air épanouie.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous aviez un job, vous vous êtes dit ça va pas du tout là?
Eh bien, écoutez, au bout de 22 ans dans la distribution automobile, on s'est dit que c'était le moment d'arrêter de passer à autre chose.
Vous vendiez quoi?
Des Peugeot, des Kia, voilà, on était sur la région parisienne. Seine, sur le sud de Paris.
Et vous aviez les concessions ou
oui, des concessions, ouais. Tout à fait. Des concessions.
Donc vous avez tout vendu alors.
On a tout vendu. Alors le plus dur, c'est pas de se dire on va changer, ça tout le monde se le dit, c'est de trouver ce qu'on va faire derrière. Voilà, donc. On s'est décidé sur la viticulture parce que j'aimais bien la nature et puis ce qui était gastronomie. Et du coup, on s'est dit, bah, banco, allez hop, on a tout.
Et vous avez vendu tous vos sous dans le vin ?
Tout.
Vous êtes tout mis, quoi.
Ouais, ouais, on a tout vendu, on a vendu nos maisons, les concessions. On est parti de la région parisienne. On a lancé le projet fin décembre 2016. Et le 15 janvier 2018, on s'est installé dans le Luberon.
Et voilà. Comment vous avez trouvé le vignoble ? C'était un peu par hasard ? Vous avez appelé Hélène Pio, Philippe Forbat ?
Ouais, il y a des agents spécialisés dans la vente, la cession de vignoble, donc qui nous ont bien accompagnés sur le projet. Donc,
connaissiez rien au vin ?
Pas du tout. Je connaissais absolument rien dans le vin. J'ai passé
la vidange, non plus.
On est passé des vidanges aux vendanges, comme on dit souvent. Voilà, donc j'ai passé mon bac pro conduite et gestion d'exploitation agricole, option vignes et vin par correspondance.
À quel âge ?
Là, j'ai 50 ans, donc j'en avais 46.
Ah, c'est fou. 46,
c'est bien pour passer son bac.
C'est bien, mais ça se fait bien par correspondance.
Est-ce que vous l'avez eu au moins ? Vous l'avez eu ?
Oui, je l'ai eu. Ça va, comme j'avais déjà mon bac, j'avais déjà un premier bac. On passe que les matières techniques, donc c'est plus facile. Hein. S'il avait tout repassé, c'était difficile. Et puis, on a découvert la région. J'ai découvert la région comme ça, il y avait 3 sessions de regroupement au lycée d'Orange. C'est comme ça que j'ai découvert la région.
Et vous avez hésité entre la Loire, le Bordelais, le Sud. Enfin, vous étiez très ouvert. Vous aviez plutôt une tentative en disant, je vais être aussi bronzé que Philippe Forbat.
Non, pas du tout. Pas du tout. L'idée, c'était déjà de se dire, pas une appellation forcément connue, parce que puis ça coûte cher.
Deuxième chose.
Là, on est en AOC Ventoux, ça va. C'est pas Châteauneuf-du-Pape. Et puis l'idée, c'était de se dire, je veux pas mettre trop d'intrants. Donc, pour avoir pas trop d'intrants, il faut quand même un climat qui soit favorable.
Oui, naturellement favorable.
Et donc, la vallée du Rhône avec le Mistral, 300 jours de soleil par an, ça correspondait bien. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Et puis on a des enfants qui sont restés sur Paris, donc il nous fallait des moyens de transport faciles.
Il y a un TGV là. Hein.
Voilà, le TGV, l'autoroute. Donc tout s'est combiné et puis sur des terres qui restent accessibles.
Alors vous travaillez la vigne
Je fais tout. L'idée c'était de tout faire.
Ouais, et pas que vous avez un problème récemment avec un sécateur.
Vous êtes bien au courant, effectivement. Avec mon essimeuse, je me suis déchiré la dernière phalange.
Vous avez essimé un peu les doigts aussi.
Pour les problèmes de bricolage, Philippe Forbat, qui a également un doctorat en bricolage. Ouais. Hélène.
Alors, donc, vous le disiez, vous êtes en appellation Ventoux. Et l'une de vos particularités, enfin, il y en a déjà pas mal hein, qu'on a passé en revue, mais c'est que vous avez pour ambition de devenir l'un des fleurons, on peut peut-être dire ça comme ça, de Ventoux en blanc, parce qu'on connaît beaucoup Ventoux en rouge et éventuellement en rosé, on connaît beaucoup moins en blanc.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était de se dire que le blanc, ça représente que 5% de la production de l'appellation. J'ai un bel encépagement en blanc, si vous voulez, avec 4 cépages.
Qu'est-ce que vous avez comme cépage ?
Alors, c'est de la roussane, clairette, grenache blanc et vionnier.
D'accord.
Qui sont autorisés. Et puis, comme je suis le petit poussé du vin, je me suis dit, bon, je n'ai pas réinventé le rouge. Il y a de très belles choses qui se font en rouge. Et je me suis dit, j'ai plutôt essayé de me démarquer sur quelque chose qui ne se fait pas trop sur du blanc. Voilà, donc du coup... Le blanc, en général, dans nos appellations, vous le faites, vous pouvez le commercialiser l'année d'après. Le rouge, il y a un petit peu d'élevage, il faut un petit peu plus de temps.
Il faut porter les stocks,
il faut un petit peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que dès le départ, j'ai fait de 4 vins blancs assez rapidement. Ouais. Voilà pour,
et les copains vignerons du cru, là, ils vous ont accueilli à bras ouverts, ils ont dit « Oh là là, il y a le Parigo qui débarque !»
Alors, ils sont habitués dans le Luberon à voir des gens qui débarquent, mais aussi, c'est des gens qui sont très, très accessibles. C'est ce qui nous plaisait aussi dans cette région-là, c'est que les gens
donc
sont très
donc, vous avez été accueillis, alors.
Ouais, bien accueillis. Ouais. Puis, à partir du moment où vous mettez la main à la pâte de A jusqu'à Z et qu'ils voient que vous bossez de l'autre côté, comme eux dans les vignes, ça aide aussi à être...
Le monsieur qui s'est acheté un petit vignoble pour dire qu'il a son vin.
Exactement, c'est ça. Ouais. C'est
quelques noms, peut-être, Hélène ?
Non. Non, on va rester très, très poli, on va garder les copains. Mais alors, du coup, donc, comment ça se passe ? Nathalie et vous prenez le sécateur le matin et vous foncez dans les vignes à la fraîche ou ça marche ?
Nathalie qui bosse.
Lui, il regarde.
On s'est répartis un petit peu les tâches. Donc, moi, je m'occupe de la partie production vitivini. Et puis, mon épouse m'aide beaucoup sur la partie commercialisation parce que le plus dur, c'est pas trop de produire le vin, c'est de le vendre.
Oui, c'est ça, c'est un vrai métier.
On n'est pas tout seul, c'est un vrai métier. Et le plus dur, c'est quand même de commercialiser derrière.
Et combien de temps vous avez mis dans votre tête en vous disant, bon allez, on est à Paris, on vend des bagnoles, ça se passe bien, on gagne des sous, on change complètement de ville. Le cheminement, ça durait quoi ? Un mois, 3 mois, 6 ans, 20 ans ?
Je dirais qu'on a initié le projet, début 2016, je me suis inscrit pour mon bac mi-2016 et fin décembre 2016, on a dit banco, c'est ça qu'on fait.
Ouais, c'est fou. Et vos enfants, ils vous ont pas acheté des cailloux en disant non mais ça va pas, non, nous on veut rester là quoi.
On en a quatre et il y a des grands qui sont restés sur la région parisienne. On a emmené la petite dernière avec nous qui a 11 ans maintenant, donc c'est un peu plus facile.
Et qui n'a pas eu son mot à dire. C'est moche.
Par contre, elle a eu son sécateur.
C'est ça. Donc aujourd'hui, vous avez quand même une dizaine de vins. Alors on a parlé des blancs, mais vous avez quand même 4 rouges et 2 rosés également.
Ouais, oui. Alors oui, donc les blancs en premier, et puis après les rouges. Là, on a commencé cette année la commercialisation de nos rouges, le premier de 2018. Alors l'idée, là c'est pareil, c'est de rester sur des vins qui soient plutôt adaptés à ce que recherchent les gens aujourd'hui, donc avec moins d'alcool, utiliser les cépages qu'on a pour faire des vins avec moins d'alcool, et des choses aussi gourmandes, il y a des très belles choses qui se font, mais qui demandent un peu plus de cérémonial pour les consommer, donc l'idée c'est de faire des vins gourmands qui plaisent un peu à tout le monde, en étant typé vallée du Rhône, mais qui reste agréable à boire et pas lourd.
Et pas trop
où il faut s'en remettre tout le dimanche après.
Vous avez un caveau, t'allais qu'on peut venir acheter chez vous là.
Alors on a un caveau, on fait plein de choses en œnotourisme également, parce qu'il y avait deux axes, c'était de partager aussi cette passion de l'autre côté. Donc sur l'œnotourisme, on fait beaucoup de choses, des soirées truffes avec un.
Ah oui.
On fait soirée
truffes. Donc là, en ce moment, dans les vignes. En septembre, il y a encore des choses chez vous.
Alors là, ça commence à se terminer parce que on rentre dans le moment des vendanges. Donc ouais. On est vraiment la vigne, c'est bien parce que souvent fin juin, on s'arrête, on accueille les gens en juillet et août, et puis là, quand on arrive effectivement début septembre, ça devient un peu plus compliqué.
Philippe Forbrac, une truffe, une bonne truffe là du Luberon. Est-ce que ça fonctionne avec les vins locaux? Parce que
bien
souvent,
sûr.
Oui. Mais bien pas sûr. Forcément.
Mais en l'occurrence, ça fonctionne bien. Et ce que l'on n'imagine pas toujours, c'est que ça fonctionne bien aussi avec les vins blancs, et peut-être même avec les vins blancs mieux encore qu'avec les vins rouges, parce que les tanins des rouges, même s'il y a ces arômes truffés, tertiaires, sous-bois, etc., qui apparaissent, on se dit, tiens, c'est logique, ça semble la même chose. Gustativement parlant, je pense que les blancs respectent mieux la truffe. Et notamment lorsque les blancs prennent un peu d'âge, et qu'ils vont, effectivement, sur les arômes de truffe, on a les deux, la fraîcheur, la acidulée, et cette point d'évolution, et notamment sur des brouillades de truffes, sur des omelettes aux truffes, sur voilà, au même.
Ça dit, on a faim, Hélène.
Des truffes comme ça,
toujours.
Avec voilà, un petit peu d'huile d'olive, un peu de fleurs de sel, même si c'est pas trop local, ça fonctionne très bien, et le blanc va merveilleusement bien, notamment avec les œufs aussi.
William, votre première vendange là, avec votre épouse, vous l'avez vécu comment là? Vous étiez en train de à l'église, il y avait des cierges, des trucs comme ça, qu'est-ce que vous avez fait?
Non, à fond, comme le reste de l'année, c'est-à-dire que.
Vous n'avez pas eu peur?
Non, honnêtement, c'est ça qui est surprenant. Alors, j'ai juste gardé un agronome et un œnologue qui suivaient le domaine. Et après, j'ai tout fait moi-même. Donc, on prend des saisonniers de temps en temps pour tout ce qui est travaux en verre. Et puis après, pour les vendanges, parce qu'on vendange à la main. Non, ça a été. Les anciens propriétaires sont quand même venus pour me donner un petit coup de main sur les premiers blancs, les premiers rosés et puis le premier rouge. Et puis après, on
débrouille-toi.
Débrouille-toi, tout à fait. À cœur vaillant, rien d'impossible.
Et pour le nom des cuvées, alors c'est vous, c'est Nathalie. Ils sont très jolis les noms des cuvées. On a Mandala, on a L'Essence. En deux mots, L'Essence. Rien à voir avec la vie d'avant. Quoique, alors, après tout, c'est peut-être un jeu de mots aussi.
Mandala, vous dites
Mandala.
Mandala, oui, on a choisi sur ce qui est toute création des étiquettes, on a renouvelé. Quand on est arrivé, il y avait 4 vins en gamme, effectivement, et comme vous l'avez dit, on est à peu près une douzaine maintenant, 10-12 vins. Donc on a fait des gammes un peu distinctes, et on a choisi ensemble les noms de cuvées et les étiquettes pour avoir des choses un peu plus modernes. On a gardé une gamme classique, et puis après des choses où je fais beaucoup d'expérience, donc... je vinifie, je veux vraiment exploiter tous les cépages, j'en ai 8. Et avoir soit des vins un peu différents, un peu plus authentiques. Là, en ce moment, on est en conversion bio. Et je passe plutôt sur tout ce qui est un peu biodynamique, surtout les levures indigènes qui m'intéressent.
Et déjà, dans les voitures, vous travaillez avec Nathalie
ou oui.
Donc, vous avez travaillé ensemble dans les bagnoles et maintenant dans le vin.
Tout à fait.
Et vous engueulez le plus dans les voitures ou dans le vin?
On n'a pas trop le temps dans les voitures de s'engueuler parce qu'on ne se voyait pas beaucoup en fait parce que c'est un travail de chien mais là on a plus de temps pour se voir et profiter des choses.
Hélène,
Alors vous parliez de conversion bio, vous allez plus loin puisque vous prévoyez même une conversion en biodynamie.
Oui, tout à fait, sur la biodynamie, parce que ce qui m'intéressait, pour être biodynamie il faut passer en bio. Ce qui me faisait un peu peur, c'est l'histoire du cuivre pour les champignons, les sols, pour la vie des sols, et c'est ce qui m'intéresse, la vie des sols. Là, je plante des chênes truffiers dans les vignes. Mais donc, du coup, là, l'idée, effectivement, c'est de passer sur quelque chose de plus authentique, avoir un vin moins standardisé, je dirais. Voilà.
Merci beaucoup, et alors bon courage pour cette belle aventure. On embrasse aussi Nathalie, merci Hélène Pio. Un site internet peut-être pour prendre enseignement?
Oui, alors saintpons.shop.
Saintpons, ça s'écrit comment? Ponce
P-O-N-S, S-A-I-N-T-P-O-N-S.shop, où là il y a toutes nos cuvées.
Merci à Charles, à Thibault, un petit pas également avec leur magnifique produit Perdrix, Philippe Forbrac, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Là, on est contents. Hein. C'est la reprise aujourd'hui. Et puis justement, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission avec Sébastien, également à la partie technique pour cette nouvelle saison de InVino Sud Radio. Je rappelle, la seule émission au monde radio 100% consacrée au vin et aux spiritueux. Et ça fait plus de 1000 émissions, Philippe. Hein. 1033, c'est depuis 2004. Quoi. Allez, oui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, InVinoRadio.tv, notre page Facebook InVino, notre site également, le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour l'émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On recevra Jacques Tranier pour le meilleur du Sud-Ouest, Catarina Pinto pour le meilleur de la côte chalonnaise. Et puis d'ici là, allez, on déjeune, bon déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et puis surtout, n'oubliez jamais, hein, pas de blague, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio InVino.